grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Haloud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.
Nous sommes donc vendredi. Vendredi, c'est le forum de la presse. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, le Grand Dialogue, c'est une série de thématiques que nous allons débattre. Donc, nous sommes le 8 janvier 2016. Bienvenue. Et nos invités sont Yaya Tandina. Il intervient depuis Tombouctou. Il est à l'ORTM, agence ORTM donc à Tombouctou. Moussa Magassa du journal du Mali.com. Amin Bessissé de la radio FM et Amadengue et Sagara du journal Soloni. Moi, je suis Famoussa Sidibé. Sedumbo est à la technique.
Studio Tamani.
Alors, nous allons donc commencer cette émission avec ce regroupement de thèmes, la réconciliation, l'insécurité à Tombouctou et la force Barkhane qui donc voit son chef rentrer car il est en fin de mission. Tout d'abord, nous allons commencer avec le processus de réouverture des classes dans le nord du pays. Cette réouverture est donc annoncée pour plusieurs écoles. Alors, pour rappel, à la fin de l'année scolaire 2014-2015, le nombre d'écoles fermées dépassait les 450. Alors, nous allons voir avec vous, peut-être Amandengue et Sagara, puisque Amin Bessissé est à la mauvaise place aujourd'hui. Nous allons donc commencer avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de ce processus de réouverture des classes après donc plus de 3 mois de démarrage?
Merci Famoussa. Je pense que c'est une bonne chose. On ne peut que souhaiter cela. Vous l'avez dit, depuis un certain temps, les classes étaient fermées. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup, en tout cas, d'élèves qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas droit à l'éducation. Et c'est aussi leur avenir qui était ainsi menacé. Et si le gouvernement a su prendre les choses en main pour rouvrir les classes, on ne peut que saluer l'initiative et souhaiter que cela puisse continuer et qu'on ne referme pas les portes et que ces enfants-là aussi, tout comme les enfants du Sud, puissent bénéficier d'une éducation.
Alors, juste une parenthèse, c'est donc le premier forum de la presse de 2016. Tout ne veut de bonheur pour la presse malienne de façon générale. Donc, avec vous, Moussa Magassa du journal du Mali.com, qu'est-ce que vous pensez de ce processus de réouverture des classes dans les zones de tension?
Voilà, bonsoir. Et donc, comme vous l'avez dit, moi aussi, je profite de présenter mes vœux. Mes vœux les meilleurs, 2016 à tout le monde. Et comme il a dit M. Sagara tout à l'heure, c'est un ouvre de soulagement pour la population de Tombouctou en général, mais pour les enfants en particulier, qui étaient privés de leurs droits à l'éducation pendant un bon bout de temps. Et donc, le fait de reprendre déjà les cours, c'est salutaire. Maintenant, il faut juste espérer que les portes, comme il a dit, ne soient plus fermées et que ces enfants-là puissent continuer leur éducation dans les meilleures conditions, comme déjà ceux du Sud le sont déjà. Donc, encore une fois, c'est un nouveau soulagement et nous croisons les doigts que cela puisse continuer.
Amin Bessissé.
Merci, bonsoir à tout le monde. J'ai aussi la même intention de joindre ma voix à celle de tous ceux qui ont parlé et au nom de la radio RFM pour présenter nos vœux de meilleur à tous vos auditeurs. Et c'est la même chose, c'est ce que je pense aussi, le fait que les classes vont bientôt reprendre au nord, c'est bien, mais que les classes soient refermées, c'est un bémol que je mettrais. Cela ne dépendrait pas des élèves, ça ne dépendra pas des enseignants. Ce sera maintenant aux autorités de prendre des mesures idoines pour que si les choses reprennent, qu'elles ne s'arrêtent. Donc c'est un aspect et cela dépendra de la sécurité et de la réconciliation dont on va parler bientôt.
D'accord. Alors nous avons Yaya Tandina qui intervient depuis Tombouctou. Vous êtes à ORTM Tombouctou. Bonjour Yaya.
Bonjour.
Merci pour votre disponibilité à cette émission. Alors, nous allons voir avec vous, j'espère que vous avez entendu cette première question, c'est sur le processus de réouverture des classes dans le Nord. Vous qui êtes donc à Tombouctou, dites-nous comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que ça se déroule?
Bon, à Tombouctou aussi, ça se passe très bien. Et pour illustration, cet après-midi même, une école d'Acharan de la commune à Lafia, qui est fermée depuis 2012, vient d'ouvrir ses portes et a bénéficié de mobilier scolaire de la part de l'HCR. Donc, ceci étant, parce que les enfants étaient dans les camps de réfugiés, toute là-bas et à Charente, toute la population était dans ces camps de réfugiés. Alors, les populations sont retournées et voici que les écoles seront ouvertes. Mais ce qu'il y a, ce que nous déplorons, c'est qu'à Ber et à Salam, jusque-là, il y a certaines écoles qui, jusqu'à présent, ne sont pas ouvertes et qui continuent à être déplorées par les populations qui veulent voir tous les enfants, noirs comme blancs, aller à l'école.
Alors, juste ce rajout, hein, hier, l'émission était consacrée justement à cette question de réouverture, avant-hier, à la question de réouverture des classes. Donc, dans le Nord, les classes qui étaient fermées depuis 4 ans déjà. Alors, nous avons eu Amberi Agrissa au téléphone, il répondait au nom de la CEMA qui est donc favorable à la réouverture donc, des écoles dans les différentes zones donc, dont elle a donc, le contrôle. Alors, Yaya, nous allons passer au deuxième thème de cette émission avec une actualité plus factuelle. Cette ressortissante suisse qui a été enlevée à Tombouctou. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette nouvelle?
Voilà, donc, c'est que c'était vers 3h, 3h30 du matin et quand 4 véhicules était venu prédisposer donc tout autour de du domicile de la bonne dame qui est d'origine qui est une Suissesse d'origine. Alors Béatrice son nom. Et donc à 3h30, je disais que 4 véhicules, parce que c'est que les témoins ont rapporté et c'était la remarque aussi au niveau des autorités sécuritaires. Donc un premier véhicule est venu se coincer devant la porte et qui a défoncé la porte, qui est entré. Et les éléments du monde sont rentrés et puis on fait sortir la dame qui criait, mais il n'y avait aucun secours. Et les voisins, voilà, étaient là avec la peur, ne pouvaient rien faire. Mmh. Finalement, on voyait les véhicules s'acheminer vers le nord.
Mmh. Alors, pour une précision, Yaya, où est-ce que son domicile est situé par rapport au centre-ville de Tombouctou?
Voilà, c'est encore le côté nord de Tombouctou, parce que pour vous dire, Abaradou, c'est l'un des plus grands quartiers de Tombouctou où il y a une forte concentration des populations noires et blanches. Et ceci étant, Abaradou aussi est un quartier qui est ouvert presque du côté de la sortie de Goundam, ensuite de l'autre côté de Dagouni, vers le nord encore. Ce qui fait que tout ce qui se passe à Tombouctou comme danger se passe dans ce quartier. C'est un quartier incontournable pour les populations, parce que tout le monde a ses parents là-bas, on ne peut pas s'en passer de ce quartier. Mais ce quartier commence à être un danger et c'est bien Abaradou qui est connu de tous.
Alors, était-elle éloignée des autres occidentaux qui sont à Tombouctou? Comment est-ce qu'elle vivait?
Bon, Béatrice, d'abord, c'est une particularité, et parce que ce n'était pas sa première résistance. Elle a été enlevée une première fois, réenlevée encore ce matin. Et pour vous dire que de retour 6 mois après, parce que c'est en juin qu'elle est revenue à Tombouctou, après la libération de la ville, et quand je l'ai demandé, j'ai dit, Béatrice, Tombouctou n'est pas bien installé, comment vous retournez? Elle me répond, Tombouctou c'est ma patrie, et Tombouctou c'est ma deuxième patrie, je l'aime, et puis voilà, ce que le bon Dieu me réserve, c'est ainsi. Parce que d'abord c'est une religieuse, mais une religieuse extrémiste aussi, qui n'a jamais accepté les débats de religion. Et pour elle, c'est sa religion et tout simplement sa religion, rien que sa religion.
Merci beaucoup, Yaya Tandina. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Alors, Ami Bessissé, on pensait que le scénario des raptes était derrière nous, mais voilà que cela surgit aujourd'hui en plein cœur de Tombouctou.
Malheureusement, c'est une dame que je connais très bien, parce que je suis aussi de Tombouctou, mais ce n'est pas étonnant, de mon point de vue, ce n'est pas étonnant parce que la sécurité n'est pas encore au rendez-vous, pas à Bamako, encore moins dans cette région de Tombouctou où tout le monde le dit, c'est l'une des régions les plus instables aujourd'hui par rapport même au nord. Ce rapt, on se demande, même si aujourd'hui on enlève cette dame, de quel côté ces gens-là auraient pu partir, parce qu'on se dit que quand même, il doit y avoir l'armée, il doit y avoir Barkhane et puis ces différents démembrements à gauche et à droite. Donc c'est difficile qu'ils puissent vraiment disparaître dans la nature comme ça. À partir du moment où l'alerte est donnée, je crois que comment on appelle ça, cette réaction n'était pas au rendez-vous. Sinon, Barkhane et puis l'armée malienne doivent aujourd'hui pouvoir pister ces quelques véhicules dont on est en train de parler dans un désert où c'est difficile de pouvoir se cacher. En réalité, si elle a été enlevée, je dirais que c'est peut-être les gens d'Iyad, parce que c'est eux qui aujourd'hui tenteront toujours de monnayer peut-être cette dame. Et comme on l'a dit, elle a déjà compris que la religion, ça peut souvent être, comment on appelle ça, la cause de sa reddition.
Alors, juste avant de passer la parole aux deux autres invités qui sont ici, je me tourne vers vous, Yaya Tandina. Comment est-ce qu'il est possible aujourd'hui que quatre véhicules puissent s'introduire dans la ville de Tombouctou et extraire une personne de la sorte?
Bon, c'est étonnant. Mais je me demandais si les quatre véhicules étaient rentrés hier soir. Mais il y avait une alerte quand même en début de soirée quand on nous disait que deux véhicules ont quitté en direction de Ber et qui s'attendaient qui voulaient du moins attaquer Tombouctou. Alors j'avais déjà compris que deux véhicules ne peuvent pas attaquer une ville, mais en tout cas il y avait des intentions. Ceci étant, je crois que des dispositions sécuritaires ont été prises, peut-être que les checkpoints ont été renforcés, mais on a oublié qu'il peut se passer autre chose. Ceci étant, vous savez que c'est des grands stratèges aussi, ils peuvent... mais tout simplement commettre des éléments au niveau de la ville qui vont essayer de faire le travail, ensuite d'autres les achemineront autrement. Ça, c'est des possibilités.
Donc une sorte mais de relais.
Si voilà, exactement. Il doit avoir une petite connexion, ce qui a facilité le travail. Et il n'y a eu aucun tir de feu, en tout cas selon les voisins, il n'y a eu aucun tir de feu et personne ne les a vus aussi avec des armes. C'est des grands stratèges.
Voilà. Alors, Moussa Magassa, une réaction?
Ben, c'est certes une surprise, hein. C'est une surprise mais que cela puisse arriver, mais il faut le dire, hein, c'est scandaleux, franchement, qu'elle puisse être enlevée encore une deuxième fois, de la sorte. C'est vrai qu'au Mali, on est dans une situation sécuritaire un peu fragile, on le remarque déjà ici à Bamako, dans le district, et donc c'est bien possible que cela arrive dans une région comme Tombouctou, mais là, être enlevé encore une deuxième fois, après celui de 2012, je crois que là encore, on se pose encore des questions, voilà, on se pose encore des questions par rapport à la mission qui s'est assignée non seulement à Barkhane et les forces armées du Mali. Donc, quelle que soit la stratégie appliquée par ces djihadistes-là pour pouvoir aller extraire cette dame, mais cela met en cause la défaillance encore de la sécurité dans cette partie du Mali. Voilà.
On sait que la force Barkhane met du temps à réagir. On se rappelle le rapt puis les meurtres des deux envoyés spéciaux, donc des RFI à Kidal. Aujourd'hui, comment pensez-vous que la réactivité des forces sur place puisse s'organiser à Madengue?
Eh bien, je rejoins mes confrères. Bon. C'est la question sécuritaire. Hein. Et il l'a dit, c'est quand même étonnant. Étonnant, vous l'avez dit, Barkhane est là, nos femmes sont là-bas. Il y a les forces du maintien de la paix. C'est quand même inadmissible que de tels enlèvements puissent encore se produire à Tombouctou. Et je crois que c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. Qu'on essaie vraiment de donner, en tout cas, la souveraineté à l'État malien, que l'État se sente présent et pour pouvoir sécuriser en tout cas sa population. Sinon, c'est quand même curieux. Barkhane qui a tous les logistiques à sa disposition, comme il a dit, comment quatre véhicules peuvent entrer et sortir sans être interceptés, c'est quand même curieux. Et je pense tout simplement que les interrogations restent. Peut-être les jours à venir pourront nous édifier, sinon on ne peut que s'interroger.
Alors, Yaya Tandina, qu'est-ce que vous pensez de la force Barkhane, vous qui êtes à Tombouctou?
Bon, moi je me suis toujours posé cette question, mais de toute façon, Barkhane, quand tu leur demandes, ils te diront que sa mission principale, c'est la lutte contre le terrorisme, les affaiblir et autre chose. Mais de toute façon, je crois que nous sommes dans une logique de lutte contre le terrorisme. C'est que sûr, on n'a plus de problème avec les mouvements armés. Et la preuve, moi, c'est ce qui m'étonne, c'est que les forces internationales sont venues se concentrer au niveau des grands centres. Pendant que il y a le grand désert qui est laissé pour compte, ce qui permet à ces groupes quand même de s'organiser, de se réorganiser et puis commettre leur forfait et puis échapper quand même à ces différentes forces. Moi, je crois que la seule stratégie maintenant, c'est de voir, parce que quand vous prenez les groupes armés actuellement, ce sont ces groupes-là qui font les patrouilles. Ceci étant, donc, ils ne sont pas en ville. Et sur la route de Goundam, par exemple, vous avez deux mouvements, CPA et MAA, qui font des patrouilles régulièrement à Ber, c'est la même chose. Mais malheureusement, en dehors de ces zones, c'est difficile de rencontrer d'autres forces en train de patrouiller. Donc la MINUSMA, c'est des missions, Barkhane, c'est la lutte contre le terrorisme. Finalement, on ne comprend rien et c'est ce qui crée cette ambiguïté. Et finalement, les actes sont là, visibles.
Merci beaucoup, Yaya Tandina. Je rappelle que vous intervenez depuis Tombouctou. Nous allons marquer une courte pause.
Vous écoutez Studio Tamani ? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, c'est notre compte Twitter, notre page Facebook et vous pouvez également faire un tour sur notre site web www.studiotamani.org. Alors, un grand merci à tous nos auditeurs qui nous suivent à travers l'une des 50 radios partenaires dans tout le pays. Alors, nous sommes aujourd'hui vendredi et vendredi, c'est le forum de la presse et nous allons donc entamer la deuxième partie de cette émission consacrée à la prolifération des chaînes de télévision privées au Mali. Alors, des chaînes de télévision qui émettent sans autorisation. Aujourd'hui, 7 d'entre elles émettent sans autorisation, une situation qui embarrasse le gouvernement. La multiplication des chaînes privées, 7 aujourd'hui, pourrait bien continuer dans les mois qui viennent. Ami Bessissi, votre avis?
Moi, je ne suis pas du tout d'accord que ce soit une prolifération des radios. Je dirais une création.
Une chaîne télé.
Oui, moi, je dirais une création de...
Alors, quelqu'un doit avoir son téléphone allumé.
Non, ce n'est pas du tout moi.
D'accord. Alors, donc, ça doit être à la régie, alors.
Donc, moi, je dirais que c'est une création de chaîne de télévision. Aujourd'hui, vous savez, on est en train de le dire tout de suite, le Mali est un pays qui est vraiment en situation d'insécurité. Et il y a plus de 300 chaînes internationales de télévision qui sont diffusées au Mali. Les Maliens aujourd'hui ont besoin de comprendre ce qui se passe chez eux. Et ces promoteurs qui sont en train de créer des chaînes de télévision aujourd'hui, à mon avis, ont le droit, même s'il n'y a pas cette autorisation. Parce que, pour rappel, cette loi a été prise depuis 2012, au temps de Amadou Toumani Touré, la loi 019 du 12 mars 2012. Et son décret d'application a été pris par Ibrahim Boubacar Keïta en 2014. Donc moi je pense que c'est l'État aujourd'hui, comme pour les radios, il suffit tout simplement aujourd'hui, après la création de la Haute Autorité de Communication, de régulariser ces chaînes et le problème est fini. Mais on ne peut pas aujourd'hui permettre à des chaînes internationales d'émettre au Mali et ne pas permettre à des Maliens d'avoir leur propre chaîne de télévision parce que ça peut favoriser beaucoup de choses dans la situation où nous sommes.
RFM aurait-elle des ambitions?
RFM, bien sûr, tout le monde a des ambitions. Et RFM est l'une des radios très ambitieuses et il ne faudrait pas
passer à la télé.
Mais RFM aujourd'hui est une radio légale comme beaucoup de radios au Mali. Mais RFM avait fait son combat aujourd'hui. S'il y a vraiment possibilité de créer une télévision, RFM ne va pas hésiter parce que c'est toujours un travail pour le peuple et pour le Mali.
Le grand saxe doit être
à l'écoute. Il est à l'écoute, ça je te le garantis.
Alors Amadegué Sagara, qu'est-ce que vous pensez de ces chaînes de télé?
La question est sérieuse. Je ne suis pas trop d'accord avec M. Cissé. Et parce que là encore, ça démontre un désordre dans notre État. L'État ne contrôle rien. Il a parlé en fait du décret, mais il n'y a aucune loi aujourd'hui qui encadre cette télévision-là. Qui a les moyens s'élève et crée sa télévision? L'État ne contrôle pas. Il n'y a pas de loi qui régit ces médias. Et je crois que c'est très dangereux. C'est un peu le désordre. Vous voyez avec le cas des radios. Des gens ont commencé, les salons sont transformés en radio. Voilà, tel prédicateur se lève et crée sa radio. Et finalement, où en sommes-nous? L'État était obligé, n'est-ce pas, de fermer cette fréquence. Et la télévision, si l'État ne se lève pas, comme vous l'avez dit, dans les jours à venir, ça va couler. Au Mali, il suffit que quelqu'un commence pour que les autres le suivent. Il faut qu'une personne donne le ton, tous les autres le suivent. Et aujourd'hui, c'est vrai, nous ne sommes même pas, il l'a dit, ce pays n'est pas stable. Qu'est-ce qui me montre que voilà, des groupes terroristes djihadistes ne peuvent pas diffuser leur message à travers ces télévisions qui ne sont même pas contrôlées, qui émettent sans autorisation, c'est très grave. Et là encore, moi, je vois la faille de l'État malien, une faiblesse de nos autorités.
D'accord. Alors, Moussa Magassa, du journal du Mali.com, qu'est-ce que vous pensez de la Ah, le mot doit être tabou. Amin Bessissé m'interdit de dire prolifération.
Création.
Création.
Mais moi, je crois que prolifération a son, à sa place ici. Hein. Franchement, et,
vous c'est savez, deux contre un aujourd'hui.
Il n'y a pas de problème.
Vous savez, au Mali, on a... Et le fait est que les textes, ce n'est pas ce qu'il manque généralement. Mm. C'est l'écart qu'il existe entre les textes et les
applications. Et le vide juridique qu'il y a.
Et c'est ça, en fait. Et c'est très, très dangereux lorsque l'État ne s'assume pas. On a l'impression qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de rigueur. Et on prend des textes, même là, avec le hack qui va bientôt arriver, je me demande si est-ce que l'État va pouvoir tenir.
Le hack qui est déjà en place.
C'est ça. Mmh. Et je me demande, est-ce que l'État va pouvoir tenir? Parce que le fait n'est pas de voter des lois, mais de veiller à ce que ce soit appliqué. Mmh. Et généralement, c'est ça qui est encore un problème dans notre pays. 300 chaînes, vous l'avez dit, émettent. Il y a beaucoup qui émettent sans autorisation, de façon illégale. Et en ce moment, moi, je ne comprends pas qu'on parle de droit à ces personnes-là. Un pays, ça se construit sur des dispositions légales. Et si ces dispositions légales-là qui régissent la société, c'est celles-là qui permettent le développement socio-économique de ce pays-là. Et au Mali, on est encore loin, du compte, notamment dans le cadre des médias. Et on espère que le HAC fera ce qu'il doit faire et sans tenir compte des appréciations, sinon des préférences et autres. Mmh. Parce que là encore, c'est encore un mal de notre société.
D'accord. Ami Bessissé a beaucoup de choses à dire, mais je vais voir d'abord du côté de Tombouctou ce que Yeya Tandina a nous dire. Alors Yeya Tandina, est-ce que l'époque, la formule de la délocalisation de l'ORTM, téléproximité, dont vous êtes un acteur phare, pourrait laisser la place à des initiatives de création de télé à Tombouctou?
Oui, donc en écoutant les uns et les autres, moi je crois que souvent on ne prend pas compte du souci de ces téléspectateurs qui aspirent beaucoup voir beaucoup de chaînes émerger au niveau du Mali. Mais d'accord, moi je suis avec le concept qu'on passe par la légalité et pour pouvoir ouvrir ses chaînes ou créer sa chaîne. Mais sachez que tout simplement, la seule chaîne ORTM, c'est vrai, même au niveau de Tombouctou, et beaucoup d'auditeurs se plaignent de ce qui se passe. On préfère voir souvent les activités de Tombouctou, voir les manifestations de Tombouctou, l'actualité de la région. Mais malheureusement, ça pose problème quand on sait que le Mali, c'est 8 régions, un district où il y a plusieurs cultures, il faut faire tout passer. Ça pose problème. Mais il faut prendre compte aussi de l'aspiration quand même de ces communautés qui veulent se voir et sentir que la télé, ça leur appartient aussi. Mmh. Ça, c'est un problème. Donc, pour moi... le fait que l'ORTM s'est installé dans les régions, c'était la bienvenue. Mais sachez que les populations sont prêtes aussi à recevoir d'autres chaînes si vraiment il y a les possibilités. Mais moi, j'ai dit seulement dans la légalité.
Mmh, d'accord, merci. Alors, c'est deux contre deux, Ami Bessissé.
Non, mais ce n'est pas une question d'égalité, ce n'est pas un match. En réalité, moi, je suis en train de défendre un concept, comme l'a dit le grand frère Yaya Tandina. La haute autorité de communication, quand ils ont rencontré la presse ici, Fodié Touré, que le président a été très clair, nous sommes là pour régulariser. Nous ne sommes pas là pour interdire quoi que ce soit.
Et nous, aux gendarmes.
Non, oui, bien sûr. Mmh. Aujourd'hui, c'est clair ce qui se passe au Mali. L'aspiration, elle est déjà là. On a envie de regarder, comme l'a dit le grand frère, autre chose qui n'est pas ça. Je ne vais pas citer de chaînes de télévision ici, mais quand on regarde, il y a des chaînes internationales au Mali qu'on ne peut pas arrêter. On ne peut pas les suspendre. Pourtant, ils n'ont aucune autorisation d'émettre à partir du Mali. Donc, le problème, c'est quoi? On a dit que la HAC aura comme mission de...
Comprenons-nous bien, comment est-ce que ces chaînes-là diffusent?
Mais c'est par satellite, le câble. C'est par satellite quand même. Mmh. Ces chaînes
émettent. Donc vous parlez des chaînes gratuites qu'on reçoit par satellite.
Les chaînes, ce n'est pas gratuit. Ces chaînes peuvent créer des problèmes au Mali. Il y a des chaînes, même ces chaînes privées dont on parle, il y en a qui émettent par satellite. Mmh. Même ici au Mali, on est en train de parler, je ne vais pas citer pour faire de la publicité à qui que ce soit. Donc le concept, c'est quoi?
C'est autorisé.
C'est ce que j'ai dit. La haute autorité de communication a pour droit de régulariser. Mmh. C'est tout. Il faut qu'on régularise ces chaînes qui sont... Parce que les gens, quand même, ils ont investi des millions et des milliards pour qu'ils puissent avoir cette chaîne. Et les Maliens ne sont pas contre ça. Aujourd'hui, les gens regardent certaines chaînes mieux, disons, plus que l'ORTM. L'ORTM, souvent, c'est à gauche et à droite que certains regardent. Parce que l'ORTM est là pour le service public, selon eux. Ils sont là pour le régime. Ils ne sont pas là pour le peuple. Comme
mais en cas de désordre, par exemple, Ami Bessissé, en cas de manque à l'éthique et à la déontologie, comment est-ce que cela va se passer quand la HAC dit qu'elle n'est pas gendarme?
La HAC n'est pas gendarme, c'est la HAC qui le dit. Et moi, je suis sûr et certain que ces chaînes qui sont là aujourd'hui, ils ont des cahiers de charges. Il suffit tout simplement qu'on les mette dans la légalité. Le problème, ce n'est pas ça. C'est des gens aussi qui aiment le pays. C'est des gens qui savent que le pays a besoin d'une certaine stabilité. Et ce qui va être divisé, comme les radios, comme les journaux, ils font quand même attention. C'est des professionnels de la communication aujourd'hui qui sont en train de vouloir ouvrir des chaînes de télévision. Mmh. Et surtout, ce qu'il faut comprendre dans cet aspect...
Ce n'est pas que des professionnels.
Non, c'est que vous pouvez ouvrir une télé, mais c'est des professionnels qui vont gérer. Donc, ce qu'il faut comprendre, on a vu combien d'autorités accordaient des interviews à ces chaînes dites illégales, à ces chaînes qui ne sont pas dans la légalité. Donc, du coup, on les légalise.
D'accord. Alors, il y a un fait qui est là. Nous avons réalisé un débat sur la question. Ce que les professionnels disaient, les acteurs disaient, c'était ces radios, ces télés peuvent émettre et la HAC ces télés auront 3 ans pour se mettre en règle. Qu'est-ce que vous pensez de cette question, Madingue?
Eh bien, je soutiens toujours ma position, c'est encore du désordre. Donner 3 ans à une télévision pour se mettre en règle, ça veut dire que la télévision peut faire n'importe quoi pendant 3 ans. Si les 3 ans ne sont pas arrivés, la HAC n'a pas le droit d'intervenir. Je le dis, c'est très important. Vous savez, prenez tout simplement l'éducation. N'importe qui se lève pour créer une école. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Et je pense que cette question mérite vraiment une réflexion sur le sujet. On laisse qui veut créer une télévision sans les textes, sans des règles, en tout cas, ce n'est pas gagné. Et il faut que l'État prenne ses dispositions dès maintenant. Ce n'est pas, c'est mal vu de laisser, par exemple, un Cissé entretenir sa télévision pendant 3 ans parce qu'il y a des éléments qui manquent, on vient lui demander de fermer. Vous imaginez ce que ça peut faire? Et qu'il soit 2, 3, 4, 5 dans cette situation, c'est le même désordre qu'on veut éviter qui va finalement s'installer.
Donc une télé ayant déjà fidélisé des gens,
c'est
difficile de fermer.
De fermer, voilà.
Alors, Moussa Magassa, journal du Mali.
Moi, je reviens encore sur le rôle de l'État. En fait. Un État doit être ferme. Un État doit prendre ses responsabilités. Quand on vient sur le cas de la prolifération, parce que moi, j'utilise le thème, parce qu'il y a vraiment une prolifération de télévisions privées, hein, franchement. Et là, il est inconcevable jusqu'à présent. Il est inconcevable que ces télévisions-là continuent d'émettre sans autorisation. Et là, quand vous dites tout à l'heure que la HAC n'est pas là en tant que police, mais c'est une formule implicite à mon avis, si je peux le qualifier ainsi. Parce que la régulation dont il s'agit implique non seulement le professionnalisme et la responsabilité dans le secteur des médias. Et pendant les délais de 3 ans dont il s'agit exactement, si une télévision ne répond pas à ces conditions-là, elle est obligée d'être interdite. Et c'est cela. Donc pour moi, c'est encore une sorte d'interdiction, mais seulement c'est une façon implicite pour ne pas encore alimenter les débats, mais qui, je crois, dans l'avenir, va être encore posé. Donc mieux vaut régler cette histoire une fois pour de bon, pendant qu'on y est, et ne pas permettre à ces gens-là de fidéliser
de l'audience.
Voilà, de l'audience, et après... venir maintenant demander à ce qu'on les ferme. Parce que là encore, ça va créer un problème.
Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette question du manque de fermeté des autorités Yaya Tandima?
Bon, moi, je crois que... Moi, je ne mets pas la responsabilité. Toute la responsabilité, c'est vraiment sur le dos de l'État. Mais quelque part aussi, il faut voir l'URTEL, qui est un organe qui est le répondant de l'État. Qu'est-ce que l'URTEL aussi fait pour que ces radios-là soient... ces chaînes de télévision puissent être réglementées. Voilà, ça c'est une première étape. Et l'autre aspect, c'est que moi je voudrais que, comme à la création de ces radios aussi au début, on avait ces mêmes difficultés, mais on a pu professionnaliser certaines radios dans les régions en formant les animateurs, en formant les techniciens et autres. Je crois que dans un premier temps, il faudrait d'abord les initier. Ensuite, les faire acquérir ces notions sur la déontologie et l'éthique même, peut-être que ça pourrait aller. Et l'État, de suivre maintenant et voir comment est-ce que pourrait accepter ces chaînes émettre. Et ça aussi, c'est avec des conditions. Parce que la chaîne, les télés sont différentes des radios. Mmh. Et souvent, ces chaînes-là peuvent diffuser des éléments qui peut-être ne sont même pas acceptés par nos communautés, qui vont à l'encontre, qui sont des éléments qui vont à l'encontre de notre culture. Ceci étant, il faut beaucoup faire attention, sinon ça peut provoquer des tensions, ça peut provoquer des guerres, ça peut aussi faire beaucoup de choses. Mais moi, je crois que la responsabilité n'est pas seulement sur le dos de l'État, mais il faut aussi impliquer l'URTEL.
Merci beaucoup, Oye Yatandina. Une courte pause et nous nous retrouverons pour la suite de cette émission.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Studio Tamani, c'est aujourd'hui le forum de la presse. Nous recevons trois journalistes et un quatrième en ligne. Il intervient depuis Tombouctou. Nous allons passer à la dernière partie, au dernier sujet, l'immigration, avec l'expulsion, donc une nouvelle vague d'expulsion de Maliens du Gabon. Ils sont 186 au total à être arrivé à Bamako il y a quelques jours, donc qui ont transité par le Nigeria en bateau. Ces Maliens expulsés dénoncent les mauvais traitements de la part de la police gabonaise. Alors, encore une fois, nous parlons d'expulsion. Nous allons, au cours de ce thème, évoquer également le bilan donc de l'immigration durant l'année 2015. Alors, Amimbe Cissé, comment est-ce que vous décortiquez cette vague d'expulsion, cette nouvelle vague d'expulsion de Maliens du Gabon?
Moi, je vais être très dur, je vais être très sévère parce que pour moi, c'est honteux lorsque des pays d'Afrique, entre eux-mêmes, prennent de telles initiatives. On se demande souvent si ce qui est dit est vrai. Parce que quand on parle du Gabon et qu'on parle du Mali, les relations entre ces deux pays, certains nous disent, sont fraternel, mais le constat est amer. Moi, j'ai eu la chance même de voyager avec des expulsés qui ont pris le trajet Bénin-Bamako. Je les ai interviewés, je les ai beaucoup. Ils ont tous connu comme souffrance. Et récemment, le ministre Dr Abdramane Sila, lors de la journée internationale de migration, avait condamné cet aspect. Il dit qu'il ne peut pas comprendre que les Occidentaux puissent expulser des Noirs, des Africains. Mais que les pays africains, même entre eux, puissent le faire, c'est vraiment quelque chose que lui n'arrive pas à comprendre. Le constat, c'est très clair. Si les Gabonais expulsent des Maliens, que les Maliens expulsent des Gabonais, et là, on mettra
des Maliens en irrégularité.
Bien sûr, il y a des étrangers en irrégularité au Mali, mais c'est le Mali qui se dit une terre d'accueil, une terre d'hospitalité.
Et
puis voilà, le président, même lors de son investiture, a mis l'accent sur ça, que les ambassadeurs, que les consuls défendent bec et ongle les intérêts des Maliens. Mais encore une fois de plus, le constat est patent. Le président ne s'assume pas. Les ministres, c'est la même chose. Et ce sont les Maliens qui continuent vraiment à être dans la tourmente et surtout dans la honte. Je ne conçois pas cela vraiment en tant qu'Africain, que des Africains puissent se le faire.
Alors, selon le ministère des Maliens de l'Extérieur, c'est près de 5000 Maliens qui ont regagné le bercail après ces nombreuses vagues d'expulsion. Alors, Amadingue et Sagara, journal Soloni, qu'est-ce que vous pensez de cette situation?
C'est regrettable ce qui arrive aux migrants maliens. Aujourd'hui, je serais, comme il a dit, dur, hein, mais moi, vis-à-vis du gouvernement. Voilà, ce qui arrive à nos compatriotes est très triste. Après le Maroc, la Libye, la Guinée équatoriale, aujourd'hui c'est le Gabon à son tour qui chasse ces gens-là comme des malpropres, sans tenir compte même de leurs droits fondamentaux. Et pendant ce temps, qu'est-ce que fait notre État? Je vois que le Mali n'a aucune politique, en tout cas, qui protège nos migrants. Un pays qui ne peut même pas donner le nombre exact de ses citoyens à l'étranger. Depuis 8 ans, on nous donne le même chiffre qui n'évolue pas. Ce n'est pas croyable. Et comment on peut comprendre que toujours nos citoyens sont malmenés, refoulés? Qu'est-ce que fait l'État? Je pense que c'est une irresponsabilité. Un État qui se respecte ne doit pas laisser certaines choses arriver.
Voilà. Alors, selon le ministère, l'État s'est doté d'une politique et cette politique protège amplement les migrants maliens. Est-ce que vous pensez que c'est le cas, Mamadou Sagara, Moussa Sagara, pardon.
Moussa Magassa. Oui. Non, avant de revenir sur la politique que préconise déjà le ministère, déjà, il faut préciser que la Libye circulation au sein de l'espace CIMAC, et qui a été beaucoup soutenu par le président Ali Bongo, a fait objet de débat à Libreville. Parce qu'on le sait, aujourd'hui, il n'est pas bon vivre au Gabon quand vous êtes identifié de, entre parenthèses, étranger.
Ouest-africain
ou quoi. Parce que là, c'est cela. La rhétorique de xénophobe est en marge là-bas. Est en marge. Et le fait de c'est-à-dire, ils se sentent tellement fiers d'eux-mêmes qu'ils ne veulent même plus, avoir affaire à un étranger. Je crois que le cas de l'ancien chef de cabinet de Omar Bongo illustre largement mes propos. Parce que celui-là qui occupait un poste était néo-gabonais et était attaqué chaque jour pratiquement sur les réseaux sociaux, par des vidéos, sinon même des titres de journaux. Donc c'est une réalité au Gabon. La xénophobie est de taille et on ne veut pas avoir d'étrangers chez eux. Mais là encore, c'est que le Gabon, on n'explique pas parce qu'ils ont envie d'expulser. Ils expulsent en disant que les gens ne sont pas en règle. Donc tous les Maliens qui sont venus, on dit que c'est des Maliens.
C'est la parade, quoi.
Voilà. Et en Côte d'Ivoire, il y a eu 26 qui ont été expulsés le 3 janvier. Au Sénégal, il y a eu plus. Il y a eu 75 du 23 au 24 juin. Donc je crois que c'est une politique qui est mise en vigueur au Gabon. Mais est-ce que si le Gabon expulse de la sorte, est-ce que le Mali doit faire pareil? Ça, c'est une autre question à être posée. Ça, je ne sais pas.
Yaya Tandina, votre avis sur ces vagues d'expulsion?
Bon, en tant que Tomboktien, je m'associe en tout cas aux autres Maliens pour déplorer ce qui s'est passé au Gabon. C'est vraiment honteux quand même de voir un pays africain expulser un nombre de Maliens comme ça. Mais la question que je me pose, est-ce que réellement on a vérifié si c'est des Maliens? Parce que pour illustration, moi je vous dis ici à Tombouctou, on est en train de voir des étrangers qui disposent de toutes les pièces maliennes. Donc souvent quand c'est la vague avec les rafles et autres, on découvre que c'est des Maliens et puis on les laisse. Et ils ont à leur disposition les pièces d'identité maliennes grâce à leurs petits sous qu'ils donnent aux agents et puis facilement ils peuvent s'enquérir de ces pièces-là. Donc généralement quand il y a des cas comme ça, on dit c'est des Maliens, mais essayez de vérifier, voir si réellement ils vont à leur village d'origine. Ça va là où on serait bien identifié. Parce que c'est difficile. Je crois qu'un Malien sérieux, quand il va en aventure, il va avec toutes les dispositions. Et ça, tout le monde sait que les Maliens sont des aventuriers, c'est des gens qui cherchent, c'est des gens qui travaillent pour gagner. Mais quelques rares personnes le font, mais en réalité, généralement, c'est des étrangers qui le font au nom du Mali. Moi, je crois que c'est la question qui se pose à notre niveau ici.
Alors,
c'est un phénomène qui a... Et je m'excuse, c'est un phénomène qui a presque tendance à disparaître. Avant, les gens passaient par là et Gao pour rejoindre la Libye et l'Algérie, qui sont aujourd'hui des villes non hospitalières. Alors, c'est pourquoi ce phénomène n'est pas connu dans ce nord actuellement. Mais nous quand même, nous associons aux autres Maliens parce qu'on dit que c'est le Mali. Quand c'est le Mali, nous sommes tous touchés.
Alors, la transition est toute trouvée pour parler du sommet de Malte avec vous, Yaya Tandina, avec ces vagues de Syriens qui arrivent dans le nord, qui transitent par le nord et qui viennent, ils prennent le Mali pour un passage pour aller en Europe. Qu'est-ce que vous pensez de ces nombreux Syriens qui transitent par le Mali?
Bon, en réalité, on l'a dit, mais jusqu'à preuve de contraire, moi, je suis en tout cas en train de faire des investigations, tout comme beaucoup d'autres journalistes, mais jusque-là, on n'a pas pu avoir des vrais Syriens. Mais je sais que la vague qui était venue...
Donc, il n'y a que des faux.
Ouais, pour le moment, en tout cas, nous, on n'a aucune preuve que c'est des Syriens. Et j'ai suivi sur les médias, beaucoup l'ont dit, mais en réalité, jusque-là, nous, on n'a vu aucun Syrien, en tout cas dans cette partie du nord, dans la région de Tombouctou. Cela n'a pas été vu. C'est des vagues de réfugiés qui étaient arrivés quand les gens l'ont vu. Parce que même les images qui étaient sorties sur certains médias, moi, j'ai vu, c'était mes propres images, mais c'était des Maliens. C'était des Maliens. Donc, je ne peux pas confirmer que c'est des Syriens qui sont là. En tout cas, jusque-là, on n'a pas la preuve.
D'accord. Merci beaucoup, Yaya. Restez avec nous. Ami Bessissé, vous voulez ajouter quelque chose?
Bien sûr. Moi, je vais confirmer à Yaya Tandina que des Syriens sont bel et bien au nord parce que j'ai fait des enquêtes au niveau même de l'Assemblée nationale. Il y a des élus de la nation qui me l'ont confirmé qu'il y a bel et bien des Syriens. On voit que les autorités sont au courant de ce qui se passe, de ce qui se trame. Lorsqu'on pense à 2012... où on est parti accueillir des étrangers, la catastrophe du Mali est venue de là. Et aujourd'hui, on laisse...
Avec armes et bagages.
Avec armes et bagages. Là, au moins, il y avait un semblant d'autorité qui était là. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Les gens viennent. On a même des informations que c'est le MNLA qui les accueille même si ce n'est pas à Tombouctou, c'est au nord du Mali et c'est encore beaucoup plus dangereux lorsqu'on sent et on sait que le pays est en train d'aller de chercher sa stabilité. Donc moi, je crois que cette situation doit vraiment trouver une formule. Les autorités le savent, mais malheureusement, le président désormais et aujourd'hui ne peut pas aller à Kidal. Donc, il va falloir attendre.
Moussa Mangassa.
En fait, on le dit généralement que c'est facile de critiquer. Hein. Mais si c'est pour le cas du Mali, oui, moi j'accepte de critiquer. Vous savez, comme il a dit, il faut que l'État assume ses responsabilités. Parce que tout ça, c'est cela en fait. On a un État négligent qui ne mesure pas la portée souvent des problèmes. Ou bien soit on n'applique pas les règles comme il le faut. Et finalement, on arrive à ce demandade-là. Quand le monsieur de Ayatandina de Tombouctou disait tout à l'heure qu'on ne sait pas exactement si c'est les Syriens, mais tout ça, c'est parce qu'il y a un laxisme. Il faut qu'on prenne le temps d'asseoir et des mesures intransigeantes qui peuvent permettre à ces gens-là de ne pas, à ces personnes-là qui ont des mauvaises idées, sinon de mauvaises intentions, de les mettre en pratique. Et c'est cela. Donc l'État doit s'assumer, l'État doit prendre ses responsabilités et il est temps que les choses changent au Mali.
Alors, concernant ces Syriens qui arrivent au Mali, à Madengue, Sagara, Soloni.
Je ne peux qu'appuyer à ce que les confrères ont dit. L'État doit prendre tout simplement ses responsabilités. À l'heure où nous sommes, il n'y a pas lieu de douter sur la nationalité de ces personnes-là. Soit on démontre clairement qu'ils ne sont pas des Syriens, ou ce sont des Syriens. Donc, comme il l'a dit, je vois que c'est négligence. Et je rebondis sur cette question, une fois j'ai l'habitude de le dire ici, la sécurité de notre pays en dépend. Il l'a dit, beaucoup se donnent les pièces d'identité maliennes. Il faut que l'État, vraiment, essayer de trouver une solution à cela. Comment des gens qui ne sont pas des Maliens, résidant au Gabon, peuvent se promener avec des cartes d'identité nationale malienne? Vous voyez, donc, tant que l'État ne va pas s'assumer, je crois que l'insécurité va toujours régner au Mali. Aujourd'hui, n'importe qui peut s'acheter une carte d'identité nationale, malheureusement. Un passeport malien, n'importe qui peut se l'acheter. Donc, il faut vraiment plus de rigueur, en tout cas, pour nos autorités, pour que...
Amibé,
moi, j'ai
pressé de prendre la parole.
Bien sûr, moi, je ne pense pas que ce soit une justification pour l'acte du Gabon. Ils ont acheminé ces réfugiés où? Au Mali. Ce sont les autorités qui les ont accueillis. Peu importe, lorsque vous avez un document administratif d'un pays, que ça soit authentifié ou pas, on doit quand même se dire que c'est des Maliens, parce que c'est des documents maliens qu'on avait avec eux.
Comme tel.
Donc, les prendre comme ça, sans même leur permettre de prendre... quoi que ce soit, les jeter comme ça, comme il l'a dit, de malpropre, moi, je pense que c'est l'acte qui est condamnable. Maintenant, comme il l'a dit, tout doit être dans la légalité. Aujourd'hui, la carte d'identité au Mali, les policiers, on vous prend avec carte d'identité, mais on demande autre chose. Il y a toujours une raison pour les agents aujourd'hui de pouvoir vous mettre dans des situations difficiles.
En fait, l'acte condamnable dont il s'agit, en fait, c'est généralement nos consulats qui sont dans ces différents pays-là, ou sont nos ambassades qui sont là-bas. C'est eux qui sont en charge des Maliens qui vivent dans ces endroits précis. Et c'est à eux de prendre les responsabilités. C'est une façon implicite pour nous de dire que ceux-là qui y vivent là-bas, ou ceux-là qui sont responsables de ces personnes-là, puissent également prendre les responsabilités et faire de telle sorte que ces personnes-là puissent vivre déjà dans des conditions qui sont préétablies dans ces pays-là et pouvoir vivre de façon idoine. C'est cela, en fait.
Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quelques secondes seulement. Je me dirige vers Yaya Tandina. Yaya Tandina, nous avons donc évoqué cette situation d'enlèvement, du rapt de la ressortissante suisse à Tombouctou. Est-ce que vous pouvez nous dire les derniers développements donc en cours dans la région, avant de nous quitter?
Bon, ce qui est sûr, aujourd'hui, les forces de sécurité sont toujours sur le terrain en train de chercher les auteurs, mais malheureusement, aucune trace n'a été retrouvée. Et comme je l'ai dit, c'est difficile dans un contexte pareil, mais permettez-moi de magnifier tout mon soutien et ma sympathie à la communauté chrétienne de Tombouctou et qui s'en veulent et qui croient que vraiment c'est une communauté qui est recherchée et puis qui est ciblée. Mais tout loin de là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est la situation au Mali qui le fait. Et je crois que les jours à venir doivent augurer de bonnes perspectives. Je souhaite que la paix revienne au fond de mon cœur pour tout le Mali, pour qu'on ne parle plus de rap ou autre chose, surtout à Tombouctou.
Merci Yaya Tandina de l'ERTM Tombouctou, pour ces mots gentils à l'endroit donc de la communauté chrétienne. C'est donc la fin de cette émission et nous vous souhaitons donc un bon week-end. Les journalistes qui étaient avec nous aujourd'hui, Yeya Tandina, ORTM Tombouctou, Moussa Magassa du journal du Mali.com, Ami Bessissé de la radio RFM et Amadenke Sagara du journal Soloni. Merci à vous pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé. Ayoubasso était à la réalisation de cette émission. Seydoumbo était à la technique. Nouhoum Diré à la régie vidéo. Nous vous disons bon week-end et à lundi pour un autre débat. Bonsoir.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.